Chapitre 6 La colère de Raoul. C'est inadmissible, c'est inacceptable, ce n'est pas et ce ne sera pas. Il est impossible, mathématiquement impossible, que le tableau ait été volé. Il n'a pas été volé. Monsieur Gabillon opposa faiblement. Cet homme est capable de tout, rien ne l'arrêtera jamais dans ses projets, il est tout puissant. Mais non, il y a des choses que même les hommes les plus audacieux, les plus adroits ne peuvent accomplir. Mais lui, il est capable de tout, ce n'est pas un homme ordinaire. Écoutez-moi bien, monsieur Gabillon. Si je vous dis que le tableau n'a pas été volé, c'est qu'il n'a pas été volé. Mais qu'est-ce qu'il vous faut encore pour accepter ? S'exclama monsieur Gabillon. Je veux comprendre, je veux savoir, reprit Raoul. Cette fois, ce fut Isabelle qui explosa. Mais qu'est-ce que cela peut bien vous faire, après tout ? On dirait qu'il est à vous, ce fichu tableau. Elle fut troublée elle-même par la violence de son intervention et par la stupeur qu'elle avait causée entre les vitres de la voiture. Le silence se fit à nouveau, rompu seulement par le ronronnement joyeux du moteur. On arrivait au musée. Elle descendit vivement, ne dit pas un mot à Raoul et accompagna M. Gabillon, qui s'était confondu en excuses. Elle l'entendit à peine qui murmurait « Ce drame l'a bouleversé, vous comprenez ?» Raoul gagna son gîte de la rue d'Assas. Il était triste, morose. L'insulte publique qu'il avait reçue de cet être qu'il commençait à chérir lui crevait la poitrine. Il aurait voulu lui tordre le cou. De quel droit s'occupait-elle de ses manigances? La Joconde n'était d'ailleurs pas plus à elle qu'à lui. Et alors, eh bien, quoi? Si elle avait plus la bouille de Mona Lisa que lui, était-ce une raison pour s'exciter comme ça? Il s'étendit sur son lit, un cigare à côté de lui, qu'il oublia d'ailleurs d'allumer. « J'ai besoin de réfléchir, de penser et de comprendre. Et puis, il faut agir aussi. Il faut récupérer le bout de bois, restituer à Lupin ce qui est à Lupin. » Il passa en revue toutes les célèbres aventures d'Arsène Lupin et se dit ironiquement « Voyons, voyons, qu'est-ce que j'aurais fait à ma place ?» Cédant des conclusions de l'analyse rapide qu'il avait déjà faite le matin, il lui semblait maintenant évident que la substitution avait eu lieu après la publication de sa lettre ouverte au conservateur Gabillon. Celui-ci n'était sûrement pas assez fort pour s'approprier sa propre Joconde et pour jouer le rôle de la victime accablée par son propre vol. Isabelle n'était pas non plus une adversaire de taille. Elle était trop dévouée à son patron et à sa fonction. Et puis trop honnête aussi. Elle, une voleuse ? Allons donc ! Peut-être encore un vitrier italien, un menuisier belge, un hollandais volant, une vache espagnole, n'importe quoi travaillant au musée ? Il résolut de laisser de côté le passé et de ne s'occuper désormais que du futur. Il avait en fait deux problèmes devant lui, qui n'avaient aucun rapport direct entre eux. D'un côté, le tableau à reprendre, de l'autre, l'activité fiévreuse de Béchoux et ses acolytes, que le profil de Lupin remontait maintenant à bloc. Le danger n'était pas encore imminent. Mais dès que l'on saurait que la Joconde avait pris le grand large, tous les index vindicatifs se pointeraient sur lui. S'il se mettait à pousser des hauts cris en disant « c'est pas moi, c'est lui », il y avait peu de chances qu'on le crût. En prévision de ces développements qui finiraient bien par se produire, il traça les grandes lignes de son plan de défense. Cela comprenait entre autres un repli stratégique sur sa seconde ligne et le jonchement prochain de fausses pistes. Il était probable qu'un petit plongeon dans la clandestinité serait assez rafraîchissant dans le courant de la semaine suivante. L'idée d'une grande machination à la Lupin se dessinait maintenant nettement dans son esprit. Il fallait provoquer la réaction en chaîne qui lui livrerait la clé de l'énigme et en même temps la Mona Lisa authentique. Vers minuit, il s'endormait paisiblement, son plan prêt jusqu'au dernier détail. La journée du jeudi se traîna lentement jusqu'à 5 heures. Béchoux avait déclaré que rien n'étant arrivé, il ne pourrait pas passer la nuit indéfiniment au musée. Si Lupin avait échoué, tout pouvait rentrer dans son ordre quotidien. Il n'en était d'ailleurs pas fâché, tant il redoutait cette lutte inégale entre la justice et l'aventurier. Pour lui, Lupin était réduit à la taille d'un mauvais souvenir ou tout au plus d'un cauchemar. À 5h10, Isabelle sortait par la grille principale du musée. Un homme, lourd d'apparence et titubant sur ses jambes, l'accosta. Il eut le mauvais goût de lui tenir le bras pour lui demander si elle avait du feu. Lorsqu'elle tenta de se dégager, il tira violemment la courroie de son sac à main et essaya de le lui arracher. Elle voulut crier au secours, mais n'en eut pas la force. L'homme levait déjà un énorme poing sur elle, lorsqu'un monsieur, arrivant à grands pas, porta sur le poignet de l'agresseur un coup de canne qui le fit reculer. Il vacilla un moment, tourna sur ses talons et fila au grand galop, abandonnant le sac sur le trottoir. Raoul se baissa pour le ramasser et le tendit à Isabelle. Elle était toute pâle. Elle le regarda, encore chancelante, et balbutia quelques mots de remerciement, entrecoupés par les halètements de sa respiration. « Ma voiture est à deux pas. Puis-je vous raccompagner ?» proposa-t-il d'une voix douce. Elle ne pensa même pas à refuser, et il la soutint jusqu'à l'auto. L'ayant aidé à monter, il s'installa au volant et démarra. « Où habitez-vous » demanda-t-il. Elle balbutia son adresse, toujours sans réfléchir, et se tut. L'auto traversa la Seine et suivit les quais vers l'ouest. Un quart d'heure plus tard, on sortait de la zone urbaine et l'on roulait à assez grande vitesse vers le sud. Isabelle sortit enfin de sa torpeur et regarda autour d'elle. « Où allons-nous » s'inquiéta-t-elle. « Dans un asile sûr, loin des ennemis qui vous menacent, » répondit Raoul gravement. Puis il ajouta en riant. « Nous partons en voyage. Cela vous fera le plus grand bien, après tous ces malheurs. » Elle comprenait maintenant le manège de Daverny. L'attaque de l'homme, le sauveteur arrivant à l'improviste, tout cela était un stratagème assez banal pour la faire monter dans cette voiture. Elle était à présent victime d'un enlèvement, tout simplement. Elle ne s'inquiéta d'ailleurs pas outre mesure, elle savait que Daverny n'avait pas l'intention de lui faire le moindre mal. Il agissait poussé par d'autres raisons dont elle ignorait la véritable nature. Cela devait avoir rapport avec le vol de la Joconde, vraisemblablement. Mais quel pouvait bien être ce rapport, elle n'en avait pas la moindre idée. La route continua en silence. Un peu avant Orléans, un troupeau de moutons encombrant la route, Raoul freina et la voiture s'immobilisa. Isabelle jugea le moment propice. D'un geste vif, elle saisit la poignée de la portière et la fit pivoter tout en poussant. La poignée tourna à vide et la portière resta close. Elle baissa la tête, vaincue. Raoul ne la regarda pas. Il reprit sa route, disant négligemment. « La porte ne s'ouvre que lorsque je le veux bien. C'est bien dangereux de sauter comme ça en marche. » On prit une petite route secondaire. La voiture traversa à petite vitesse deux villages dont Isabelle ne put lire les noms. Enfin, elle entra par la grille grande ouverte d'un jardin assez bien entretenu. Au bout d'une allée de gravier se trouvait une petite maison aux volets verts et aux toits de tuiles. Raoul descendit, contourna la voiture et ouvrit la portière d'Isabelle. Ils entrèrent dans un vestibule aux murs blanchis à la chaux et Raoul ouvrit la porte d'un salon meublé simplement. Quelques chaises d'apparence rustique, un vieux fauteuil fatigué, un tapis exsangue et une petite table basse de bois verni. « Je reviens tout de suite, » dit Raoul en sortant. Isabelle ne pensait pas à s'enfuir. Elle savait bien que toute tentative était condamnée d'avance à l'échec. Elle s'assit et attendit.